Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette petite étude quotidienne. Alors c'est reparti. Aujourd'hui, nouveau sujet. On a dit chaque jour, on allait tenter de d'utiliser un nouveau sujet. Là, hier, on a étudié les débuts de la prière. Aujourd'hui, sujet complètement différent. Ça y est, il est temps de se préparer un petit peu à Pessah, Chag à Pessah. Et donc, nous allons étudier, alors nous allons avoir à peu près trois rencontres à ce niveau-là, pour étudier ensemble la Haggadah de Pessah. Nous sommes tous confinés, que ce soit en Israël ou également outre-Atlantique. Et donc, eh bien, c'est le moment de se renforcer avec des petits messages pour dans 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est Pessah et on sera tous ensemble, Leil HaSeder, tous ensemble. D'ailleurs, je tiens tout simplement à lancer comme ça, comme petit curieuse, comme petite anecdote, avant de commencer notre étude sur la Haggadah de Pessah, eh bien, que le Baal HaTourim nous enseigne quelque chose d'intéressant à la Paracha de Bo, qui traite évidemment du sujet de la sortie d'Égypte, lorsqu'on nous dit là-bas dans la Paracha, Al Yetzé mi Petach Beto ad Boker. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, le Baal HaTourim nous dit que ce verset n'est pas seulement vrai pour la Géoula de l'Égypte, mais est également vrai, enfin lui il parle, sera également vrai dans la dernière Géoula. Et donc on voit que bah, c'est tout à fait vrai, puisque dans la Géoula que nous vivons actuellement, eh bien, à l'unité, nous ne sortons pas non plus de nos maisons. Donc, bah, il semblerait que le Baal HaTourim, il savait de quoi il parlait. Nous allons étudier ensemble la Haggadah de Pessah. En fait, nous allons avoir deux cours sur la Haggadah à proprement parler, et le dernier cours que je vous ferai juste avant Pessah, eh bien, sera un cours entier sur la fête de Pessah de manière générale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Haggadah, un long texte, et on va essayer de donner plein de petits vortim, plein de petites idées, et que vous pourrez piocher dans ces idées-là le soir du Seder, raconter à vos familles. Bezrat Hashem, d'ici là, le confinement sera un petit peu moins violent, et donc vous pourrez avoir des amis autour de la table du Seder. Et donc, voilà, je vous propose de passer sur toute la Haggadah, pas en un coup, en deux coups, et vous donner à chaque fois des petites choses comme ça qu'on peut évoquer le soir du Seder. Est-ce qu'il y a un fil conducteur à toutes ces choses? Eh bien, ça, on verra à la fin. Alors, c'est parti! Kadesh Urchatz, Karpas Yachatz, Magid Rachza, Motzi Matza, Maror Korer, Shulchan Orer, Tzafun Barer, Alel, Nirza. Il est les 15 éléments du Seder. 15 éléments, l'aile à Seder. Alors que les choses soient bien claires. On va être dans le même bateau. On va être dans le même bateau, et vous à New York, et nos amis qui sont en France, et également ici à Jérusalem. J'ai tendance à vous dire que ici à Jérusalem, mon Wi-Fi est peut-être meilleur que le vôtre par rapport à ma relation avec Dieu, mais là, pour le coup, eh bien, on est à la même enseigne. Car le grand absent de la soirée de Pessah, c'est le Beth Amikdash. Eh oui, Bezrat Hashem cette année, et si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, eh bien, il n'y aura pas Pessah en houle. Tout le monde sera à Jérusalem parce qu'on devrait être au Beth Amikdash. Vous savez, depuis quelques années, j'ai eu la chance de participer à des grands seders d'arim organisés comme ça, en dehors d'Israël, avec des gens extraordinaires. Et alors, évidemment, que c'était un gros kiff pour moi, bien sûr. Mais c'est surtout un grand honneur de pouvoir participer et donner de la Torah au plus grand nombre, comme ça, dans des endroits incroyables. Et je disais tout le jour, dès que je commençais le Seder, en disant « Bezrat Hashem, l'année prochaine, on refait pas ce qu'on a fait cette année. Bezrat Hashem, l'année prochaine, on fait un Seder organisé, mais à Jérusalem, pour qu'on puisse tous monter au Beth Amikdash le matin. » Et effectivement, c'est le grand absent de l'Eil HaSeder. Toute la soirée du Seder, comprenez-moi bien, je ne parle pas des mitzvot, la soirée du Seder telle que nous on l'entend, eh bien cette soirée-là a été constituée au fur et à mesure de générations, mais évidemment dans des générations qui étaient en exil, dans des générations qui rêvaient du Beth Amikdash. Et donc toute la construction de la soirée est tournée vers cet idéal du Beth Amikdash. Il y a 15 simanim de l'Eil HaSeder. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Ratsa, Motsi, Matsa, Maror, Gorer, Shulchan, Orer, Tzafun, Barer, Halel, Nirtsa. 15 éléments qui se forment la soirée du Seder. Ce 15 éléments, évidemment, nous rattachent à quelque chose. nous rattache à quoi? Si je vous dis 15 dans le gène, ça nous fait penser à quoi? Alors, si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça c'est bon, on a la chanson Echad Miyodea. Mais ça, on en parlera, c'est qu'on y arrivera. Mais le 15, qu'est-ce que c'est le 15? Eh bien, le 15, les amis, ce sont les Shirei à Ma'alot. Dans Tehilim, il y a 15 Shirei à Ma'alot. Il y a plein de Tehilim, mais il n'y en a que 15 qui commencent par les mots Shir la Ma'alot. On en connaît plusieurs. Shir la Ma'alot, Esaena, Elaharim, Ein Yavo Ezri, Shir la Ma'alot, Mima Makim, Karaticha Hashem. On en connaît plusieurs. Il y en a 15 en tout. 15 Shirei à Ma'alot. Mais qu'est-ce que ça veut dire Shirei à Ma'alot? Shir la Ma'alot. Shir la Ma'alot. Shir facile, chanson. Mais qu'est-ce que c'est la Ma'alot? On a l'habitude de traduire comme ça en français la chanson des degrés. Ma'ala, un degré, une dimension. Zenachon, mais ça ne veut pas dire que cela. Ma'ala, en hébreu tout simplement, ça veut dire un étage, un escalier. D'ailleurs, vous savez très bien comment on dit un ascenseur en hébreu. Ma'alit. Ma'alot, ce sont des escaliers. Qu'est-ce que je veux dire par là, les amis? Eh bien, je vais parler quelque chose de fondamental. Il y avait au Beth Amikdash, pour faire la séparation entre ce qu'on appelait la Ezrat Nashim et pour rentrer dans la Hazara, il y avait 15 escaliers qui s'appelaient les Shirei à Ma'alot. Pourquoi? Eh bien, parce que les Lévi'im, les Lévites, se tenaient sur ces escaliers et chantaient les 15 Tehilim. Et à chaque fois qu'il passait d'un Tehilim à l'autre, il montait d'un escalier. Les 15 Shirei à Ma'alot. Il y a 15 éléments le soir du Seder. Pourquoi? Parce que notre objectif dans ce soir du Seder est bel et bien de monter les marches pour nous arriver au Korban Pessah, pour arriver à cette dimension du Beth Amikdash où on peut faire le lien direct avec Akadosh Baruch Hu grâce au Korban. La première donc dimension que je voulais partager avec vous, c'est la dimension de ces 15 éléments du Seder par rapport au Shirei à Ma'alot. Alors comme vous voyez, c'est ça qu'on va faire. On va essayer de donner à chaque fois des petites explications, pas plus que 3 minutes chacune, parce que vous le savez comme moi, mais le soir du Seder, peut-être la soirée la plus kiffante de l'histoire, mais ça peut être aussi la plus redoutable de l'histoire. Il suffit que vous ayez à la table du Seder un Bachur Yeshiva qui a passé la moitié de son année à la Yeshiva et qui s'est dit bah, « Tiens, ce serait peut-être le moment, le soir du Seder, de dire tout ce que j'ai appris pendant 6 mois. » Non. Non. Ah, sauf si tu fais un Seder qu'entre Bachur et Yeshiva. Alors là, ok, c'est bon, tu peux y aller, tout le monde va kiffer. Mais si à la table du Seder, tu as des petits-enfants, tu as des adultes qui ne sont pas forcément des Bachur et Yeshiva, tu as des gens plus âgés, non, 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 ce n'est pas le moment de dire d'énormes divrei Torah, de grandes explications. N'oubliez pas qu'il est plus important que tout le monde, y compris les enfants et y compris la mémé, elle soit encore réveillée jusqu'au Hallel. Donc si tu passes 3 quarts d'heure par Dvar Torah et que tu en fais 12, avant même d'avoir mangé, je peux t'assurer que les gens ils vont te tuer. Non, parce que les gens, ils ont faim le soir du Seder. Donc, des petits divrei Torah, 3 minutes, vous n'êtes pas du tout obligé et vous interdit de les faire tous le soir du Seder, vous en choisissez. Ok? Donc, on a fait le premier, cette dimension des 15. Alors maintenant, rentrons dans le texte de la Haggadah. Alors, Kadesh, je n'ai pas vraiment grand-chose à vous dire là-dessus. Kadesh, c'est le kiddush, il y en a à toutes les dimensions de rencontre avec Dieu. Enfin, peut-être quand même quelque chose à dire. Kiddush, la Kedusha. La Kedusha, alors elle n'est pas spécifique à Pessah, là en l'occurrence. À chaque fois qu'il y a une fête, Mo'adim. Ele Mo'ade Hashem Asher Tikriu Otam Be Mo'adam. Voici les Mo'adim. Mo'ed. Mo'ed, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça ne veut pas dire simplement une fête. Non. Une fête, c'est Chag. Chag, ça vient de Chagiga, ça vient de Chuga. Chuga, en araméen, c'est un cercle, le cycle. Une fête revient cycliquement. Donc, le terme de fête, en fait, c'est Chag. Ce n'est pas Moed. Moed, ça vient du verbe Leivaed. Leivaed, en hébreu, ça veut dire se rencontrer. Une rencontre. Une Pgisha. C'est ça, Moed. Quand on fait un Moed, c'est en fait, en anglais, on dirait Moed, traduction anglaise, date. On fait une date avec HaKadosh Baruch Hu. Pugisha. Ele Moade Hashem. Voici les rencontres que Dieu nous a proposées. Bon, donc, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on va y faire la Kedusha. Parce que rencontrer Dieu, c'est la Kedusha. Ouais, mais il y a un petit problème, les gars. Vous savez, il faut trois choses, trois éléments pour avoir une rencontre. Quelques rencontres que ce soit, hein, que ce soit une rencontre entre un garçon et une fille, entre un patron et son employé, entre deux collègues, ce que vous voulez, un homme et sa femme. Trois éléments. Il faut, premier, la personne qu'on va rencontrer. Les deux personnes qui se rencontrent, ils doivent être dans l'équation. Donc là, c'est bon, on a ce qu'il faut. Kadosh Baruch Hu, Knesset Israël. Am Israël, Dieu, on est bon. Le peuple juif rencontre Dieu. Super. Donc on a le premier élément. Le deuxième élément, il faut un timing. Si je te dis on se rencontre, et je ne te dis pas quand, ben on ne se rencontrera pas. Seulement, ça ne suffit pas d'avoir les gens et le timing. Il faut un troisième élément pour la rencontre. Ce troisième élément, c'est quoi ? L'endroit ! Mais oui, si je te dis à ma femme, « Bon chéri, demain on se retrouve à 2h. » Et je m'arrête là. Il n'y aura pas de rencontre. Il faut un endroit qui est également le lieu de la rencontre. Cet endroit, ce lieu de la rencontre, ben, il a un nom. Voilà, il y a ma fille qui arrive et qui dépose son coussin du GAN. Tout va bien. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, mesdames ? Merci beaucoup. Il faut un lieu de rencontre. Quel est ce lieu de rencontre ? Eh bien, dans la Torah, il y a un endroit qui s'appelle Moed. Cet endroit, dans le livre de Vayikra, dans le livre de Shemot, il s'appelle Ohel Moed. Le Mishkan, le Mikdash. Le Bet HaMikdash s'appelle Ohel Moed, la tente de la rencontre. En d'autres termes, le Kiddush que je fais à Pessah, comme je vous ai dit tout à l'heure, appelle à l'autre élément pour la rencontre. Je vous ai dit, le soir du Seder, c'est un grand coup de gueule, excusez-moi de l'expression française, pour ce qui nous manque. On fait le kiddush pour bien montrer qu'on a l'horaire, on a la date, on est au rendez-vous, temporellement parlant. Mais on veut pouvoir être véritablement au rendez-vous, il nous manque donc la notion spatiale du rendez-vous. Bezrat Hashem, cette année. Et sinon, l'année prochaine, eh bien, non seulement on sera à l'heure du rendez-vous, mais on sera également au lieu du rendez-vous. Alors, on a fait Kiddush, et une fois qu'on a fait Kiddush, eh bien, on passe à la troisième étape du Seder, enfin, la deuxième étape sera du Seder, Kadesh Uchatz. Uchatz. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Uchatz, on se lave les mains. Alors, on se lave les mains sans bracha, d'accord ? Et qui se lave les mains alors ? Chacun va me donner ses minagim. Je tiens à vous le préciser, tous vos minagim sont kodesh kodashim. Ne changez jamais les minagim parce que vous avez entendu un rav qui vous a donné une autre explication. Vos minagim, c'est kodesh kodashim. Ça d'air ? Donc, on ne change pas les minagim. Mais on peut apprendre des autres minagim. Quoi qu'il arrive, eh bien, urhat, on se lave les mains avant de commencer à manger quoi ? Avant de commencer à manger le karpas, on y reviendra dans 2 secondes. Alors, d'après les différents minagim, soit le chef de famille se lave les mains, soit tous les hommes se lavent les mains, soit tout le monde se lave les mains, l'homme chané. La question que je vous pose, c'est pourquoi on se lave les mains ? Je me lave les mains avant de manger, j'entends. Avant de faire motzi, je vais me laver les mains. Ben oui, évidemment. Rartza, on dit kadesh, uchatz. Karpas, Yahatz, Magid, Rartza. Rartza, c'est se laver les mains avant de faire motzi. Ça, c'est normal. Je le fais tous les jours, toutes les semaines, Shabbat, machin. Mais là, je ne vais pas faire motzi. Là, je vais manger mon karpas, mon céleri trempé dans de l'eau salée. Tant mort. Je dis céleri. Oui, parce que le karpas, à la base, c'est le céleri. Vous savez quoi ? Je vais attendre de parler de karpas. Pour l'instant, on va dire que c'est du céleri. On va tremper le céleri dans l'eau salée. Et alors, pourquoi est-ce que je me lave les mains ? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. La halakha nous dit noir sur blanc dans le Shulchan Aruch. Kol davar shetibulo bemashke chayav ventilat yadayim. Il y a d'après la halakha sept liquides qui sont vecteurs, transmetteurs de pureté et d'impureté. Et donc, il y a sept liquides que lorsqu'ils sont en contact de l'homme, eh bien, s'il touche après cet homme quelque chose d'impur, alors il devient impur. Bon, on va pas passer en revue les sept. Ceux qui nous intéressent, qu'on voit au quotidien pour nous, le vin, l'eau, le lait. Donc, kol davar shetibulo bemashke, chayav bentiat edaim, nous dit le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, chaque chose qui est trempée, mouillée par un de ces liquides, et que toi, tu dois le prendre pour le manger, eh bien, tu dois te faire netilat yadayim d'abord, pour enlever l'impureté de la main. La briout, alakha. Ouais, alakha. Mais personne ne le fait. Ne commencez pas à me dire, non, mais moi, je le fais. Personne ne le fait. Oui, il y a des gens qui le font, kol akavod. Mais trouvez-moi un ashkenaz qui le fait. Trouvez-moi un ashkenaz qui fait. Baal Achaye Adam, un des grands commentateurs de la halakha de la dernière génération, il dit, c'est vrai, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. D'abord, je t'ai boulot mes mashkel, n'tiat adaim, aval lo nahagu. On n'a pas pris l'habitude de le faire. Nous, Bémet, combien d'entre nous, lorsqu'ils ont lavé une pomme et que la pomme est encore un peu mouillée, ils vont faire n'tiat adaim d'abord avant de la manger? Combien d'entre nous, lorsqu'ils ont trempé leur croissant, oui, pour les Français, leurs gâteaux et autres, leurs donuts, pour vous, mes frères américains, ils ont trempé le donut dans le café. Combien en a qui ont été faire n'tiat adaim d'abord? Ah, parce qu'il faut faire n'tiat adaim d'abord. L'onagou. Alors, l'onagou, mais j'entends. Ceux qui le font tout le temps, ils ne vont pas être choqués de devoir le faire ici parce qu'on va tremper le carpas dans l'eau salée. Donc, ils ne vont pas être choqués. Pas de problème. Mais ceux qui l'onagou, et c'est l'écrasante majorité du peuple juif. Donc, si l'onagou, alors pourquoi ce soir, on le fait tous? Pourquoi ça fait partie du texte de la Haggadah? Oui, ça, c'est ma Haggadah. Salut. Pourquoi? Lama behemet kol davar shetibulo bemashkecha benitat adaim. Pourquoi est-ce que c'est important? Quand est-ce que c'est important de bel et bien se laver les mains pour ne pas choper de l'impureté? Ben, c'est important lorsque la notion de pureté et d'impureté joue un rôle. Et quand est-ce que cette notion de pureté et d'impureté joue un rôle? Ben, quand? Quand on va manger des aliments en état de Kedusha. De quel aliment on parle? Korbanot. Ce soir de Pessah, on est censé manger deux korbanot. Korban Pessah et Korban Chagiga. Le fait de venir dire, d'habitude je ne le fais pas, l'onahagou. L'onahagou parce que caché midai au quotidien, de tout le temps se rappeler qu'on fait un truc alors qu'on ne peut pas le faire. Qu'on ne peut pas faire les korbanot. Donc, on n'a pas pris l'habitude de tout ce qu'on trempe, eh bien, on fait une tiat adaim. On a gardé ça pour le pain, parce que c'est la base de notre alimentation. Mais pour tout le reste, on n'a pas pris l'habitude de le faire. Pourquoi ce soir, on le fait? Eh bien, je reviens à mon coup de gueule de tout à l'heure. Parce que ce soir, on veut du migdash. Parce que ce soir, on veut du korban. Parce que ce soir, on dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt. On est prêt à sortir du confinement. On est prêt à prendre l'avion, à prendre la voiture, à prendre ce que tu veux pour aller monter à Jérusalem. Bon, t'inquiète pas, la fin de la montée, elle se fait à pied, mais on est prêt à venir à Jérusalem au Beth Amikdash. Le Ouchatz du début du Seder vient dire, c'est vrai, d'habitude, j'ai pas pris le soin de le faire, mais ce soir, je le fais parce que je suis prêt à manger mon korban. Et là, ça nous amène directement à Carpas, parce que je me suis lavé les mains, d'accord? Bon, donc je vais tremper mon Carpas dans l'eau salée. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de céleri. Bon, c'est le base, c'est le Carpas de base. Je dis pas qu'il n'y avait pas d'autres trucs qui marchent en Carpas. Il y a d'autres trucs qui marchent. Par exemple, chez nous, en Pologne, oui, enfin chez nous en Pologne, les grands-parents, et c'est resté comme ça le minag, et ça m'arrange très bien parce que j'aime pas vraiment le céleri. Même si j'essaye de me forcer, mais j'aime pas, hein, j'aime pas. Nous, en Pologne, on avait trouvé une autre solution. Quelle solution tu parles? Il n'y avait pas de céleri. Va trouver en Pologne un légume vert, c'est-à-dire un yerek, une salade, un truc dans le style, qui existe. En Pologne, on n'avait pas tout ça. Donc, on a pris ce qu'on avait. Et qu'est-ce qu'on a pris ? De la patate. De la pomme de terre. Tu vois pas l'idée. Tu vois pas l'idée, parce qu'à la base, eh oui, il faut le dire, à la base, le carpas, c'est quoi cette idée de manger un légume cru avant le repas ? C'était un minhag qui était totalement présent à l'époque des Romains. Et là, je fais une parenthèse, une énorme parenthèse. N'oubliez pas, merci beaucoup Marc, on va essayer de continuer. Une énorme parenthèse, l'ambiance de la Haggadah. Si on veut comprendre l'ambiance de la Haggadah, on doit avoir lu au moins 5 ou 6 BD d'Astérix. Non, parce que l'ambiance de la Haggadah, c'est l'ambiance des Romains. C'est cette ambiance-là, cette époque-là. Ok, on va en comprendre ça quand on va parler de Messoubin, être accoudé. Ça, on y reviendra. En tout cas, notre carpas, notre légume cru avant le repas, à quoi sert-il ? Eh bien, il a un rôle. Liftoach et ateavon. Ouvrir l'appétit. Ouvrir l'appétit. C'est très important. Ouvrir l'appétit. C'est darkam shel benechorim. C'est comme ça qu'on fait quand on est libre. On ouvre l'appétit. Parce qu'on est prêt à beaucoup manger. Fémeux. C'est à ça que ça sert, les salades. D'ailleurs, les minagim de salade au début du repas, Shabbat. C'est ça. C'est ouvrir l'appétit. Bon. Alors, soyons honnêtes. Les Ashkenazim, ils n'ont rien compris. Mais les Marocains n'ont rien compris non plus. C'est-à-dire que la salade, les salades, avant le repas, c'est pour ouvrir l'appétit. Les Ashkenazim, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas de salade du tout. Oui, non, ne venez pas me raconter que vous avez la salade d'œuf écrasée. Nous, Besséder. Nous. Les Marocains, ils n'ont rien compris non plus parce qu'ils font 29 salades. Résultat des courses, tu as ouvert l'appétit, mais tu l'as refermé à la fin des salades. Nous. C'est pour ouvrir l'appétit. Va ouvrir l'appétit avec des patates. Tu manges des patates, tu les as ouvertes, mais tu les as refermées aussi, tous les appétits qu'il y avait. Bikitsour, à Carpas, à Amiti, vrai Carpas, le Carpas de base, c'est le céleri. Tov, pourquoi est-ce que le céleri s'appelle Carpas ? Les amis, je vais vous dire, c'est un chidouche énorme. Le céleri s'appelle Carpas parce que, regardez le céleri, vous avez déjà vu un céleri, il y a des rayures dans le céleri. Vous regardez la tige de céleri, il y a des rayures comme ça, on peut voir dans le légume. C'est des passim, carpas, va nous dire le kliyakar. Le kliyakar, Rabbi Ephraim Lustig, il y a 500 ans à Prague, nous dit à propos de Yosef et sa tunique, ketonet passim qu'avait Yosef, il avait des rayures dans sa tunique. Le carpas, nous dit le kliyakar, fait référence à la tunique de Yosef. C'est pour ça qu'on a pris Dafka du céleri qui a ses rayures. Et pourquoi est-ce qu'on fait référence à Yosef ? Eh bien, tout simplement parce que Yosef, à cause de sa tunique, on est parti en exil. Nous dit le Talmud, à cause d'une tunique que Yaakov a donnée à Yosef, it galgel adevarim. Et c'est ce qu'on a lu d'ailleurs dans le Talmud, dans le Dafayomi, hier, avant-hier. À cause de cela, on est parti en Égypte. L'exil. En venant manger le carpas, on vient dire qu'on a intégré ce qu'il fallait intégrer de l'exil, intégré ce que Yosef avait à nous apprendre là-bas, et que donc maintenant on est prêt à le ramener. N'oubliez pas que Yosef, bien qu'ayant été celui qui nous a fait descendre en exil, celui qui nous a appris comment on se comporte en exil, eh bien finalement, Yosef a quand même été celui qui a dit « Pakod ifkod Elohim etrem » Dieu va vous libérer de là, ve'alitem et atzmotai mise. Et vous ferez sortir mes ossements de là-bas et vous les ferez monter avec vous. En d'autres termes, manger le carpas, toujours dans notre même état d'esprit de retour à l'origine, eh bien, dans ce même état d'esprit, le carpas vient nous dire, je suis prêt à rentrer. Kadesh uchatz, carpas, yachatz. 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 On coupe la matzah. Le fameux yachatz, on la connaît l'histoire. On prend nos trois matzot du Lala Seder, la matzah du milieu, on la coupe et on garde une petite partie, une grande partie, pour la fille commune. D'accord ? Parce que c'est d'accord. Oui, mais quel est ce qui n'est pas Besséder Gamour? Ce qui n'est pas Besséder Gamour, c'est que ce qu'on garde pour la ficomane, c'est un morceau de matzah. Qui d'ailleurs, lorsqu'on la récupérera à la ficomane, après que nos enfants se soient battus pour la retrouver, oui, car évidemment, on la cache, bien sûr, parce qu'on est en train de faire un traité de pourparler. Si tu trouves la ficomane, t'auras ton cadeau, t'auras pas ton cadeau, ta, 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 ta. Je peux t'assurer que dans ma famille, la ficomane, il y en a deux. Lorsque je vais cacher la ficomane, en fait, j'ai préparé deux sachets. C'est un secret. Ne le dites à personne, surtout pas à mes enfants. Mais il y a le vrai sachet d'aficomane qui est caché dans un endroit où ils ne le trouveront pas. Et il y a l'autre sachet d'aficomane qui vient d'une matzah qui n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que je connais mes enfants. Mes enfants sont des barbares. Ils sont des violents quand il s'agit d'avoir une compète. Et donc, en général, le sachet de l'aficomane, c'est de la farine de matzah à la fin de l'histoire. Donc, va distribuer ça à tout le monde après. Donc, j'ai ma vraie matzah aficomane en réserve. Ne le dites à personne. Mais bon, normalement, je ne devrais pas être obligé de faire ça. Parce que normalement, c'est quoi l'aficomane ? L'aficomane, c'est une partie de mon korban pessah. C'est mon korban. L'aficomane, c'est une cuisse d'agneau. C'est une épaule d'agneau, je ne sais pas moi. C'est des ribs. C'est ça, mon aficomane. Eh oui. C'est ça, mon aficomane. Et là, c'est tout le truc. Aujourd'hui, je viens et je cache de la matzah. Ve'alzeneemar. C'est à cause de ça qu'on dit que matzah zelechem oni. C'est le pain de misère. On aura plein d'autres explications sur la matzah, mais c'est le pain de misère. Parce que c'est misérable de devoir manger un bout de carton alors qu'on aurait pu se faire des ribs. On est d'accord ? Ah. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on est prêt à rentrer dans le Maggid. On est prêt à rentrer dans le Maggid, messieurs, dames. Et là, on va rentrer dans le Maggid et ce sera le dernier petit enseignement d'aujourd'hui sur le Maggid. On va lancer le Maggid qui est la mitzvah principale de ce soir. La mitzvah principale de l'El HaSeder aujourd'hui. Je précise bien aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le Korban Pessah actuellement. Il y a deux grandes mitzvot le soir du Seder, manger le Korban Pessah et les saper sipur yetziat mitzrayim. Raconter la sortie d'Égypte, c'est donc le Maggid. Puisqu'on ne fait pas le Korban Pessah, ça devient la mitzvah principale. Sauf que là, avant même de rentrer dans le texte du Maggid, j'en suis pas encore là dans mon texte. J'ai même pas encore commencé à lire le Maggid. Je ne suis que là où il y a marqué Maggid. Et lorsque je regarde le Maggid, que c'est une mitzvah, je le sais, je l'ai étudié, je me pose une question. Lorsque je vais faire une mitzvah, qu'est-ce que je dois faire avant de faire une mitzvah normalement ? Et je parle ici d'une mitzvah qui ne dépend que de moi. Il y a des mitzvot qui soit dépendent de celui qui va la recevoir, ou soit qui n'ont pas de chiour, qui ne peuvent pas être quantifiables. Alors ces deux sortes de mitzvot sortent de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Mais pour toutes les autres mitzvot qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avant de faire la mitzvah ? On fait une bracha. On fait une bracha. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Je ne sais pas moi, lishmoa kol shofar. Asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. C'est une mitzvah de manger de la matzah, donc avant de la manger, je fais une bracha. Si ici raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah, ben, il faut que je fasse la bracha avant. Où est la bracha avant de faire la mitzvah ? Je dis, quand c'est une mitzvah qui dépend de ce que l'autre va recevoir, de comment il va le recevoir, alors je ne fais pas la bracha. Quand c'est une mitzvah qui dépend, Shira, quand c'est une mitzvah qui dépend de comment je vais la recevoir, alors j'ai dit, comment l'autre va la recevoir, etc. Alors j'ai dit, on ne fait pas la bracha. Quand c'est une mitzvah qui n'a pas de chiour, du style tzedaka, tout ça, alors je ne fais pas la bracha. Aval, une mitzvah normale, comme ici, eh bien on devrait faire la bracha avant. Comment c'est possible qu'on ne la fait pas ? Alors ne vous inquiétez pas, le Khatam Sofer a déjà répondu à cette question-là, et il donne un chidouche incroyable lui aussi. Khatam Sofer nous dit, il y a une bracha pour le Maggid, bien sûr. Sauf que la bracha du Maggid, elle n'est pas avant de faire la mitzvah, elle est après. Et oui, quand on regarde dans la Haggadah, on regarde à la fin du Maggid, juste avant de se dire « ça y est, je vais pouvoir manger », eh bien, on va faire une bracha. Inez, je vous la montre ici. Barirkat, Birkat Gaal Israël. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Gaalanu Vegaal Et Avotenu. Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. C'est la bracha qui vient conclure le Maggid. Dieu Chatam Sofer, c'est la bracha du Maggid. Donc il y a une bracha au Maggid. Seulement, elle est à la fin. Vous allez me dire, non, mais non, ça ne va pas du tout. Non, quand on fait une mitzvah, on fait une bracha, donc on fait la bracha avant. Ça n'existe pas qu'on fait une bracha après. Ne me dites pas l'allumage des bougies de Shabbat chez les Ashkenazim. Je précise chez les Ashkenazim parce que chez la grande majorité des Sfaradim, on fait normalement, on fait la bracha sur les Nérodes de Shabbat et ensuite, on fait l'allumage des bougies de Shabbat à Kol Beseder. Mais les Ashkenazim, ils aiment se prendre la tête et ils te disent que si tu fais la bracha, tu as déjà fait rentrer Shabbat, comment tu peux allumer les bougies là ? À l'origine, on faisait la bracha et on allumait les bougies après. Ne me dites pas non plus un motzi lechem min haaretz netilat yadayim qu'on a d'abord lavé les mains, ensuite on a fait la bracha. Non, on a fait la bracha quand on a les mains mouillées. Donc on est dans l'action de lavage. Ici, on parle de faire complètement après. On dit le Khatam Sofer, il y a une autre mitzvah, une seule, où on fait la bracha après l'action. Seulement, c'est une bracha que moi, je ne vais jamais pouvoir faire, que la majorité d'entre nous ne fera jamais. De quelle bracha on parle, de quelle mitzvah on parle. Dit le Khatam Sofer, c'est à guerre chez Tovel le Geruto, le converti qui va se tremper au mikvé pour finaliser sa conversion. Une fois qu'il est sorti du mikvé, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Le Achniso Le Itztaref. Il va rentrer maintenant dans le peuple juif. Le Khatam Sofer nous dit pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la bracha avant ? Parce qu'avant le mikvé, il n'est pas juif. Donc il ne peut pas dire Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu. Ou il ne peut pas dire Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et il ne peut pas se référer à Avotenu, Veloé Avotenu. Il ne peut pas dire Asher Kideshanu, puisqu'il n'est pas encore faisant partie du nous. Donc, dit le Khatam Sofer, le guer, une fois seulement qu'il s'est converti, c'est-à-dire qu'il s'est trempé au mikvé, alors il peut faire la bracha d'appartenance au peuple juif. Dit le Khatam Sofer, il en va de même pour l'El Haseder. Nous dit le Rambam, va citer le Khatam Sofer c'est le Rambam, il dit dans chaque génération, on doit se voir comme si nous on sortait d'Égypte. Fait mode. Mais si on doit se voir comme si nous on sortait d'Égypte, faisons-le vraiment. À l'époque, quand on est en Égypte, on ne peut pas encore dire à Asher Kideshanu Bemitzvotav, on n'est pas encore les serviteurs de Dieu, puisqu'on est toujours les serviteurs de Pharaon tant qu'on est en Égypte. En d'autres termes, nous dit le Khatam Sofer, de la même façon qu'un guer, il ne peut pas dire à Asher Kideshanu tant qu'il n'est pas devenu faisant partie intégrante du peuple juif. Tant que le peuple juif n'est pas peuple juif intégralement indépendant parce qu'il est soumis à Pharaon, eh bien il ne peut pas dire à Asher Gaalanu. Et donc, ce n'est qu'après la sortie d'Égypte qu'on devient Am Israël sous contrôle de Dieu. Ce n'est donc qu'après que nous, on ait fait la sortie d'Égypte, nous, en racontant le Maggid, qu'on peut faire la bracha qui va nous relationner directement à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est donc qu'après le Maggid qu'on peut dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Gaalanu, Vegaal Et Avotenu. Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Les amis, maintenant qu'on est là, qu'on a fait rentrer complètement notre identité dans le peuple d'Israël, eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous retrouver pour la prochaine fois pour l'explication entière du Maggid. À bientôt, les amis.